SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre Europa Voice numéro 104. Au menu aujourd'hui, la nomination imminente du nouveau Premier ministre britannique et l'Europe qui durcit encore davantage le ton face à Moscou. Deux sujets que nous allons étudier avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne.
Qui, pour succéder à Boris Johnson, la réponse est imminente, on le saura ce mardi, le 6 septembre. Nathanaël, quelles sont les dernières étapes jusque-là ?
Alors, on arrive effectivement dans la dernière ligne droite du processus de désignation du Premier ministre au Royaume-Uni. La dernière étape, maintenant, elle revient aux membres du parti conservateur qui vont devoir choisir entre les deux finalistes d'après le premier tour. Donc, ça se joue entre Liz Truss et Rishi Sunak. On aura en fait la réponse du vote ce lundi, 5 septembre, et dans la foulée, le Premier ministre désigné, enfin, élu rencontrera la reine mardi et prendra automatiquement ses fonctions début de semaine prochaine.
D'ailleurs, il y a une particularité cette fois, c'est que ce 15e Premier ministre va rencontrer la reine en Écosse.
Effectivement, il y a un petit peu du changement du côté de la tradition. C'est simplement pour des raisons de santé de la reine d'Angleterre. Elle va rester en fait dans sa résidence écossaise de Balmoral où elle passe habituellement toutes les années la fin de l'été pour recevoir mardi le nouveau, c'est Sunak, ou la nouvelle, c'est Truss, première ministre. Ce qui se passera aussi, c'est que Boris Johnson, lui, se rendra également en Écosse pour présenter officiellement sa démission à Elisabeth II. Donc effectivement, il y a un peu de changement au niveau du protocole qui va entraîner quelques modifications logistiques aussi, puisqu'on ne sera plus au niveau de Buckingham. Mais en fait, dans les faits, on respecte quand même la tradition anglaise pour la mise en place et l'intronisation de ce 15e, comme vous l'avez mentionné, Premier ministre du Royaume-Uni.
Et vous l'avez dit, il y a encore deux candidats en lice. Les bruits de couloir disent que Liz Truss va probablement l'emporter. Est-ce qu'on en est sûr ?
Alors, on est jamais sûr, Marianne. Il peut toujours y avoir des surprises avant une élection. Mais effectivement, Liz Truss est donnée comme la grande favorite dans cette dernière ligne droite. Liz Truss, pour nos éditeurs, Marianne, c'est l'actuel chef de la diplomatie qui est dans le gouvernement. Elle est députée du Norfolk depuis 2010 et surtout elle a une très grande expérience ministérielle puisqu'elle a été à l'environnement, à la justice, au trésor, à l'égalité homme-femme. Intéressant aussi, c'est que Liz Truss s'est, Marianne, repositionnée au sein de son propre parti et face au dossier du Brexit. Elle est aujourd'hui, Marianne, positionnée très à droite. Liz Truss, d'ailleurs, au départ, en 2016, Marianne, elle avait voté contre le Brexit avant de faire un virage à 180 degrés et de devenir une des plus farouches opposantes à l'accord qui a été trouvé avec l'Union européenne, notamment sur la question du protocole nord-irlandais avec, on le sait, Marianne, depuis début de l'été, depuis début juillet, le Royaume-Uni sous la houlette de Boris Johnson qui essaie de détricoter cet accord qui avait été passé, qui avait été signé avec l'Union européenne. Donc Liz Truss est la grande favorite, Marianne, et aussi surtout elle est favorite parce qu'elle est perçue par rapport à son opposant comme n'ayant pas trahi Boris Johnson. Et comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, ce sont maintenant les membres du parti conservateur qui vont décider parmi ces deux candidats, et il y a beaucoup plus d'appétence pour cette candidate qui finalement s'inscrit un petit peu dans la filiation de l'actuel Premier ministre Boris Johnson.
Et que ce soit Liz Truss ou Rishi Sunak, est-ce qu'on a une idée de l'avenir politique qui attend le Royaume-Uni ?
D'abord, on a la question du Brexit, qui restera encore un dossier chaud pour le futur Premier ministre britannique. Et au-delà de ça, au niveau international, il y a les relations bilatérales, notamment la relation bilatérale avec les États-Unis. Ça, c'est, sur la scène internationale, à la fois vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis des grands partenaires de ce monde contemporain. Après, d'un point de vue plus interne, en termes de politique intérieure. On a, mais un peu comme partout en Europe, hein, on a un Royaume-Uni qui est dans une situation économique très difficile. On a aussi un très fort taux d'inflation. On a des scénarios où une inflation pourrait monter en 2023 et atteindre plus de 20% au Royaume-Uni. On a un contexte social qui est aussi très compliqué. Et un peu comme partout en Europe, on a une hausse du coût de la vie qui a provoqué, on avait parlé dans une des précédentes émissions d'Europa Voice, des grèves qu'on n'avait pas vues dans le pays depuis les années 80. Donc, on a effectivement cette situation internationale, cette relation à l'Union européenne vis-à-vis du Brexit, et on a, d'un point de vue de la politique intérieure, à la fois une situation économique qui est difficile et qui est aussi, encore une fois, très dépendante de ce qui est en train de se passer avec la Russie, notamment sur les questions de l'énergie, du prix du gaz, qui va avoir un impact sur le coût de la vie et donc qui pourrait amener à des mouvements de protestation importants au Royaume-Uni.
Nathanaël, je voudrais vous poser une dernière question sur ce sujet. On ne va pas redresser le bilan du mandat Johnson, puisqu'on en a déjà parlé dans Europa Voice numéro 101. Mais lui, dans tout ça, que va-t-il devenir ?
Alors, Boris Johnson, ce qui est aussi intéressant, je pense, et important, Marianne, de préciser, c'est qu'on est dans une succession au Royaume-Uni qui est une succession qui fait suite à des scandales. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un nouveau Premier ministre qu'on va installer au Royaume-Uni, c'est un nouveau Premier ministre qui vient parce que l'actuel Premier ministre Boris Johnson a dû démissionner à cause de scandales à répétition. Donc c'est aussi important, j'allais dire, dans cette succession et dans cette histoire politique au Royaume-Uni, de rappeler que finalement, les derniers faits d'armes de Boris Johnson, ce qu'on se rappellera de lui, c'est effectivement ces scandales à répétition qui ont dû amener sa démission au début de l'été 2022. Je parle notamment de l'affaire Pincher et des attouchements de ce membre du gouvernement sur plusieurs personnes qui ont amené la démission de Boris Johnson. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, évidemment, Marianne, le bilan de Boris Johnson est marqué par ce Brexit et finalement par ce Brexit qui, on peut le dire, pour l'instant, ne profite absolument pas au Royaume-Uni. C'est très difficile de voir les effets bénéfiques de ce Brexit pour le Royaume-Uni. Et je dis ça aussi, Marianne, parce que cette élection du Premier ministre, de ce nouveau Premier ministre entre Sunak et Truss, se fait par les membres du Parti conservateur. Ça veut dire qu'on a une très petite part de l'électorat au Royaume-Uni. Il a été estimé par des instituts de sondage à peu près 0,35%. Donc c'est 0,35% du corps électoral au Royaume-Uni qui va décider de l'avenir du pays. Et c'est ça aussi qui est un petit peu bizarre dans ce bilan de Boris Johnson, c'est qu'il ne laisse pas le pays entre les mains de celui qui va être le plus plébiscité par le pays dans son intégralité, mais par ceux qui finalement seront le plus fidèles ou sont le plus fidèles aux idées du Parti conservateur. Et je pense qu'il peut aussi, à ce niveau-là, Marianne, avoir une véritable rupture et encore, un bilan encore plus négatif et plus difficile à assumer pour Boris Johnson parce que, voilà, il va laisser le pays dans un état très compliqué et une passation de pouvoir qui, finalement, n'en est pas vraiment une, avec un corps électoral dans sa globalité qui va être privé de cette décision quand même assez importante de nommer un Premier ministre.
Merci beaucoup, Nathanaël. Je le rappelle, donc, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni va être nommé lundi avec officialisation mardi, le 6 septembre. On passe à la deuxième partie de l'épisode. Nathanaël, les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis à Prague et ont voté une nouvelle série de sanctions contre Moscou. Parmi elles, le fait qu'il sera désormais plus difficile et plus long d'obtenir un visa pour les citoyens russes. Pourquoi avoir pris cette décision ?
Ce n'est pas une sanction isolée, hein. C'est une sanction qui vient s'ajouter déjà aux nombreuses sanctions, notamment financières, qui s'appliquent à la Russie. Alors, pourquoi on a eu cette nouvelle sanction ? D'abord, il faut le dire, il faut faire un pas en arrière historiquement, mais avant le déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, il y avait un accord qui permettait aux Russes d'obtenir en fait un visa de manière accélérée. C'est-à-dire que au lieu d'avoir simplement les pays à l'intérieur de l'espace Schengen, c'est-à-dire les 22 États de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, qui bénéficient de cette libre circulation, on avait d'autres pays avec lesquels il y avait des accords bilatéraux pour avoir une obtention plus facile de visa, notamment des pays qui géographiquement sont européens ou sont autour de l'ensemble politique de l'Union européenne. Donc cet accord, il existait. Premier élément, c'est moins une sanction en tant que telle qu'un avantage qu'on enlève à la Russie pour justement marquer le coup. L'idée, en fait, elle a été fortement porté par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. C'est un petit peu pour pas que, si vous voulez, il y ait deux visions différentes. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, on peut pas avoir d'un côté des sanctions économiques et en même temps, encore une fois, d'un point de vue officiel vis-à-vis du pays, avoir cet assouplissement par rapport à la politique de visa. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez cohérent. Ça a mis du temps. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que ça, on a attendu maintenant, puisque finalement, ça a l'air d'être plus facile d'avoir cette sanction au niveau des visas que de faire des sanctions financières. C'est parce que simplement, les pays au sein de l'Union européenne n'étaient pas d'accord. Schématiquement, Marianne, ce qui se passait, c'est que les pays limitrophes, notamment la Pologne et les pays baltes, eux voulaient absolument voir ces sanctions parce qu'ils sont frontaliers limitrophes de la Russie et donc forcément les premières personnes qui s'extirpent de la Russie arrivent dans ces pays-là, alors qu'on avait des pays, la France, mais aussi l'Allemagne, pour des raisons évidemment géopolitiques, qui pensaient que ce n'était pas une bonne chose d'avoir cette restriction des visas. Donc voilà cette décision qui a mis du temps, mais qui a finalement été actée par l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Mais justement, vous venez de le dire, la Pologne, les États baltes, ils voulaient aller plus loin, ils voulaient stopper net la délivrance des visas. Pourquoi ça n'a pas été voté en ce sens ?
Indépendamment, Marianne, de cette politique européenne, rien n'empêche un pays seul, là vous avez cité la Pologne par exemple, de bloquer les visas Schengen qui sont délivrés par d'autres pays. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple de la Pologne peut elle-même empêcher les Russes d'entrer dans son pays au niveau national, sur décision notamment du ministre de l'Intérieur. Elle n'a pas besoin de l'accord de l'Union européenne. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, ces pays-là pourront effectivement eux-mêmes durcir et avoir encore plus de restrictions par rapport à, par exemple, sur la question des visas, sur la question du nombre, parce que l'Union européenne peut très bien dire on délivre un certain nombre de visas, et puis, pour reprendre l'exemple de la Pologne pourrait dire, ben non, moi je délivre absolument zéro visa pour des ressortissants russes sur mon territoire. Mais c'est un équilibre, Marianne, qui est difficile, parce que encore une fois, et c'est la difficulté de l'Union européenne, il faut s'entendre à l'unanimité sur ces questions-là. Et on le sait hein, que des pays, par exemple, comme la Hongrie, notamment, mais aussi l'Allemagne, la France, l'Autriche, le Luxembourg, eux sont beaucoup moins enclins à bloquer totalement les visas pour les Russes, pour des questions, encore une fois, géopolitiques, l'Allemagne notamment pour la question du gaz, hein, pour ne pas froisser Moscou, mais la France, tout simplement, pour des questions de tourisme. On le sait que les touristes russes sont une manne importante de l'économie touristique en France et la France, comme tous les pays européens, sont affamés de touristes après deux ans de Covid. Donc, voyez, hein, il y a à la fois des facteurs géopolitiques, économiques et géographiques parce que la situation n'est pas la même pour des pays limitrophes qu'elle ne l'est pour des pays qui sont un peu plus éloignés de Moscou.
Bien sûr, mais cette décision de s'attaquer à la délivrance des visas, est-ce que c'est un coup dur pour Vladimir Poutine ou alors est-ce que c'est les citoyens qui sont, si je puis dire, des victimes collatérales ?
Je crois qu'il y a deux niveaux de lecture, Marianne. Je dirais d'abord que c'est quand même un coup qui est porté à Vladimir Poutine parce que le chef, le président ukrainien Zelensky, dans une interview qu'il avait faite avec l'Express fin août, disait, enfin en tout cas ça a été retranscrit noir sur blanc, que la sanction, et là je cite Zelensky fin août, disait que la sanction la plus forte consisterait à introduire des restrictions de visa pour les citoyens de la Fédération de Russie. Je continue la citation. « Je peux comprendre que cela ne fasse pas l'unanimité, en particulier en France, visitée par de nombreux touristes russes qui adorent la Côte d'Azur, etc. etc. » Donc en fait, c'est aussi un coup dur pour Poutine parce que c'est finalement répondre positivement à une des dernières requêtes du président ukrainien. Ça, c'est le premier élément. Après, encore une fois, il faut pas voir cette sanction sur les visas comme quelque chose d'isolé, mais comme appartenant à une image plus globale, qui est celle des sanctions complètes que l'Union européenne est en train d'appliquer avec la Russie. Moi, je dirais que si c'est un coup dur pour Vladimir Poutine parce que c'est répondre positivement à une requête de Zelensky, c'est aussi donner un peu plus d'eau à son moulin par rapport aux restrictions, notamment sur le gaz et l'approvisionnement en gaz, notamment avant l'hiver. Donc c'est aussi, vous voyez, hein, c'est jamais tout noir ou tout blanc, et donc ça peut aussi être un argument de plus du côté de Vladimir Poutine pour restreindre encore un peu plus et ne pas respecter certains accords d'approvisionnement que l'Union européenne est en train de négocier avec Vladimir Poutine, notamment sur le gaz avant l'hiver.
Et dans le même temps, Nathanaël, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont arrivés à la centrale nucléaire de Zaporijjia, comme c'était prévu. On le rappelle, hein, cette centrale, elle est située en Ukraine, mais elle est actuellement sous contrôle russe. Leur arrivée n'a pas été facile, hein. Le site étant régulièrement frappé par des missiles et tous deux, Kiev et Moscou, s'accusent mutuellement d'être l'auteur des attaques. Un réacteur a même été arrêté juste avant l'arrivée des experts. Nathanaël, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette inspection de l'AEIA ?
On a effectivement la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est sur place et qui se prolonge jusqu'à la fin de ce week-end. Effectivement, on a eu des mots assez durs hein, par rapport à ce qui se passe sur le site. Et le directeur de l'organisation avait notamment utilisé ces mots qui sont assez forts. De l'intégrité, je le cite, de la physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises. Alors, c'est à la fois très fort et à la fois très diplomatique parce qu'on sait que les deux camps, Marianne, s'accusent. Hein, les Russes accusent les Ukrainiens de sabotage, les Ukrainiens accusent les Russes de bombarder cette centrale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Agence internationale met clairement une alerte en disant que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'on peut courir très rapidement à la catastrophe. Maintenant, Marianne, ce qui est compliqué, c'est de savoir est-ce que on va ou pas obtenir une démilitarisation de cette zone. Pour l'instant, ce n'est pas une exigence de l'agence. Et donc ça, c'est aussi, encore une fois, il faut voir ça dans sa globalité. Ça, c'est encore une fois une requête qui va peser très lourd dans la balance du côté Zelensky d'obtenir ou pas cette démilitarisation de la zone. L'agence, la mission de l'agence, Marianne, se continue jusqu'en fin du week-end, peut-être début de semaine prochaine. Et on le sait hein, aussi, flotte au-delà, au-dessus de cette visite de l'agence internationale, tout un imaginaire collectif autour du nucléaire et des incidents nucléaires, avec évidemment Tchernobyl comme épisode historique douloureux. Vous voyez, c'est très compliqué parce que c'est du billard à plusieurs bandes, parce que c'est l'agence internationale, parce que pour l'instant, il n'y a pas cette obtention de la démilitarisation, parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce que les deux parties au conflit s'accusent l'un l'autre de mettre en péril la sécurité des habitants. L'Ukraine, d'ailleurs, Marianne, accuse aussi la Russie de forcer ses habitants, enfin des habitants de la zone, à donner des fausses informations aux experts de l'agence. Donc c'est une situation qui est très compliquée, qui est très tendue et surtout qui peut déclencher des hostilités encore bien plus importantes sur le terrain.
Mais concrètement, alors, l'étape d'après, c'est quoi cette inspection ? Est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose de concret ? Peut-être pas un pas vers une sortie de crise, mais au moins des négociations ?
C'est tout l'enjeu, Marianne, c'est de savoir à partir de quand on va pouvoir ramener les protagonistes autour de la table des négociations. Et c'est une question importante et très légitime, Marianne, comme toutes vos questions. On en avait parlé dans un précédent numéro d'Europa Voice. C'est que aussi, on sait que du côté de l'Union européenne, on avait une opposition entre plusieurs groupes de pays. On avait une opposition entre des pays qui voulaient obtenir une solution, si je puis m'exprimer ainsi, pacifique de sortie de crise. Et on avait des pays, d'autres pays, qui voulaient une solution militaire beaucoup plus offensive. Et c'est tout l'enjeu, Marianne, c'est à partir de quand les sanctions, les inspections, les différentes fournitures en armes des pays de l'Union européenne, à partir de quand on va passer à l'étape supérieure qui finalement ne peut être qu'une des deux. Là, on est encore dans le processus, mais à partir d'un moment, on va devoir soit avoir une intervention plus importante sur le terrain ou ramener tous les partis au conflit autour de la table et obtenir une solution de sortie de crise. Donc tout ça, ce sont des étapes et cette inspection en est une parmi d'autres. Ce sont des étapes pour essayer de dessiner cette solution pour un conflit qui maintenant dure depuis plus de 6 mois. Hein. C'est aussi ça qui est qu'on veut absolument, je pense, éviter, notamment du côté de l'Union européenne, c'est d'arriver, et je pèse mes mots, hein, mais d'arriver à une espèce de guerre froide, nouvelle situation de guerre froide avec un gel des relations entre des pays au sein de l'Union européenne. Parce que, encore une fois, rappelons-le, hein, les positions sont quand même très divergentes entre des pays comme la Hongrie et des pays comme la France, l'Allemagne, etc. Donc, il ne faut aussi pas que ce conflit pour l'Union européenne n'arrive à une situation où, au-delà du fait qu'il y a un conflit ouvert avec un voisin direct de l'Union européenne, bah, ça fissure aussi la cohérence politique du bloc des 27. Et donc, je crois que c'est vers ça que l'Union européenne va devoir travailler. C'est très bien, maintenant, on fait ces inspections, on a tout ce processus, tout ce jeu international, à partir de quand on décide des prochaines étapes, encore une fois, d'un conflit qui dure maintenant depuis plus de 6 mois et auquel il est très difficile pour l'instant de voir quelle sera la solution de sortie de crise.
Affaire à suivre, on en parlera dans les prochains Europa Voice. Merci beaucoup Nathanaël, c'était Europa Voice numéro 104.
Merci Marianne.